au réseau Cogeco. Mario Langlois rencontre.
Plaisir, tel qu'annoncé en introduction d'émission aujourd'hui, d'accueillir celui qu'on a tous appris à découvrir au cours des dernières années, qui est devenu le visage des arts martiaux mixtes ici au pays et partout dans le monde, Georges St-Pierre, qui est avec nous aujourd'hui. Et pour moi, c'est une première rencontre en personne. J'ai déjà parlé au téléphone, faire une entrevue, mais c'est un honneur de t'accueillir. Georges, bonjour et bienvenue aux amateurs de sport.
Bien, merci de me recevoir.
Comment vas-tu? Comment vas-tu quelques semaines après l'annonce de ta retraite? Là, te demandes-tu qu'est-ce que tu vas faire de ta journée quand tu te réveilles, ou t'es encore un peu dans la même routine?
Non, je suis dans la même routine. Je pense que ça va me prendre du temps à décrocher. Mais je m'entraîne toujours autant. Alors, j'ai rencontré beaucoup d'athlètes qui ont pris leur retraite. Et puis là, tu les vois, ils commencent à être obèses, à prendre du poids, tout ça. Moi, je veux vraiment pas que ça m'arrive. Je pense souvent, les athlètes, quand ils prennent leur retraite, c'est parce qu'ils ont le dégoût pour leur sport. Ils sont comme écœurés de compétitionner. Moi, j'ai pas le dégoût dans mon sport, c'est juste que je voulais me retirer au top. Et puis, c'est une belle histoire. Tu sais, je m'en vais pas en ayant aucune pensée négative, je m'en vais en restant positif et je vais continuer à m'entraîner tout le long de ma vie.
Quand tu as annoncé ta retraite, saluer notamment Jean-Yves Thériault, quelques personnes aussi qui t'ont inspiré. Ça nous a donné l'idée d'appeler Jean-Yves Thériault dans les jours qui ont suivi, réaliser une entrevue avec. Et je demandais à Jean-Yves, penses-tu que Georges va s'ennuyer de l'octogone? Puis j'aurais dû sortir l'extrait, mais il a dit non, tu vas d'une couple d'années, il va être bien content avec ses enfants, sa famille. Puis tu sais, mais est-ce que tu l'as appelé, toi, avant d'annoncer ta retraite? Est-ce que c'était une conversation qui t'a amené un certain éclairage?
Ah, ben Jean-Yves Thériault, c'est un modèle pour moi. Il était incroyable. Et puis, je reprends une des phrases qu'il a dit. Il a dit, quand il a pris sa retraite, il dit j'ai dit au Iceman, parce que son surnom c'était l'Iceman. Oui. J'ai dit au Iceman, écoute, tu m'as bien servi tout le long de ma carrière, mais là, je veux que tu me laisses tranquille. Puis, c'est un peu la même chose quand on combat, quand on compétitionne. Quand on compétitionne dans ce sport-là, on met un masque, en quelque sorte, et on devient quelqu'un qu'on n'est pas vraiment dans la vie de tous les jours. C'est comme un super-héros qui se transforme. Et c'est dur de faire la transition. C'est ça des fois qu'il faut arriver à relâcher, et puis c'est pas facile.
Y a-t-il une différence entre Georges St-Pierre puis GSP?
Oui, il y a une différence, bien sûr. GSP, il s'en fout de ce que le monde pense. Il va faire ce qu'il a à faire. Il va peu importe ce que ça prend, il va vouloir obtenir et réussir à aller à ses fins, peu importe ce que ça prend. Georges St-Pierre, lui, il est plus diplomatique. Il veut pas faire mal, il veut pas blesser les gens, il veut être gentil avec tout le monde, il veut pas donner une mauvaise opinion à personne, alors il essaie toujours d'être politiquement correct avec tout le monde.
Est-ce que c'est difficile à réconcilier des fois?
C'est difficile, mais tu sais quoi, toute la rage, l'énergie négative que j'ai eue durant ma vie, quand je deviens JSP et que je compétitionne, je peux m'en débarrasser et servir de ça comme et la canaliser, la mettre en énergie dans mon combat. Par contre, quand je suis dans la vie de tous les jours, ben il y a des gens qui tu veux pas déplaire. Donc, tu dois être gentil avec plusieurs personnes. Tu sais, on peut pas toujours dire ce qu'on pense. Pas nécessairement mentir, mais tu peux pas dire tout le temps ce que tu penses. Alors, il faut que tu sois politiquement correct. Tu sais.
Après avoir beaucoup fouillé avant cette entrevue-là, j'ai eu envie d'aller sur certaines thématiques intéressantes qui, je pense, vont nous permettre de mieux te connaître, puis au public de mieux te connaître. Et j'ai l'impression que même un athlète d'élite qui écouterait probablement tes réponses en apprendrait sur la gestion du stress.
Oui.
Ça a été quelque chose de vraiment très, très fort dans ta vie. Comment t'as fait pour arriver à gérer ça, puis tu sais, pendant toute ta carrière, parce que la dose de stress qui vient avec là, est immense?
Ah oui, c'est insupportable. L'attente du combat, pour moi, c'est la chose que j'aimais le moins de mon travail. Le combat et l'attente, c'est le pire. C'est comme une boule qui grossit. Plus que tu approches, plus que ça grossit, puis c'est vraiment insupportable. Alors, je me suis mis à faire plusieurs recherches au niveau psychologique et philosophique. Et j'ai appris que les grands champions dans le sport et comme dans la vie ont commencé à agir en tant que champion avant même qu'ils deviennent champions. On se pose la question comme Michael Jordan, Usain Bolt, tous les grands athlètes ont commencé psychologiquement à se transformer en champion avant même qu'ils le deviennent. Donc, c'est comme on dit en anglais, il y a un dicton qui dit « fake it until you make it ». Alors moi, quand j'ai un combat, c'est sûr que j'ai peur. Je suis comme tout le monde, je suis un être humain, j'ai des doutes. Est-ce que je vais être assez fort? Qu'est-ce que le monde va dire? Si, ça, plein de choses que... Des fois, on se concentre sur les choses qu'on ne se contrôle pas. C'est une erreur. Donc, la chose à faire, c'est se contrôler seulement sur les choses qu'on concentre. Rester objectif. Et quand j'ai un combat, je sais les choses que je dois faire pour pouvoir avoir la victoire. Et je me concentre là-dessus. Peu importe ce que ça coûte, peu importe ce que ça prend, même si je dois y mourir, je dois me concentrer et réussir à faire ce que je dois faire. Je reste seulement objectif et non subjectif. Donc, en faisant ça, tu augmentes tes chances de réussite. Et la peur, c'est comme c'est comme du feu. Tu peux t'en servir pour faire cuire ta nourriture, ça peut être ton allié, mais la peur aussi, c'est comme du feu, ça peut te brûler. Donc, l'important, c'est de se servir de la peur, de la crainte que tu as de l'échec, mais t'en servir comme source de motivation d'un côté positif et non négatif.
Raconte aux gens pourquoi, parce que j'ai appris que tu aimais ça aller prendre une ride en voiture.
Oui.
Des fois, une couple d'heures ou la veille. Ou... Raconte un petit peu comment de chauffer ton char, en quelque sorte, te relaxe.
Chaque combat que je fais, chaque combat est plus gros que le précédent. Alors des fois, ça vient, tu as l'impression que le monde tourne autour de toi. Ça te sort un petit peu de la réalité, parce que normalement, t'as l'impression d'être le centre du monde, puis que tout le monde t'observe et tout. Donc, ça te donne un sentiment un petit peu comme un stress claustrophobe.
C'est étouffant?
Étouffant, tu peux plus respirer. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est que la semaine du combat, des fois, quand je me sens qu'il y a tellement de médias, puis tout le monde est en entour de moi, en train d'observer chacun de mes moindres mouvements, je prends ma voiture et je m'en vais faire une ride. Alors, des fois, ça me prend une demi-heure. Et quand je me prends en voiture, j'observe les gens. J'observe une vieille madame qui finit de faire son épicerie, qui porte son sac. Et là, je me dis dans ma tête, je me dis, elle s'en fout. Elle s'en fout que je gagne le combat samedi soir. Elle sait même pas je suis qui. Ça va rien changer. Et je me rends compte que la plupart du monde en ont rien à foutre de mon combat samedi. Et ça m'enlève beaucoup de pression. Et souvent, une autre chose que je fais, c'est que je me regarde dans le miroir. Et je me dis, en me regardant, j'ai dit, j'en ai rien à foutre. Que je gagne, que je perde, genre, on s'en fout.
Tu te détaches comme...
Je me détache un peu de la réalité.
Mais... Genre, je te détache de GSP?
Exactement. Et pour moi, ça me fait du bien, c'est très thérapeutique.
C'est assez difficile.
Essayer de dormir quand tu es stressé, c'est très difficile. Je me faisais des scénarios dans ma tête. Moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Le hamster, comme on dit, à l'intérieur, il tourne. Puis on se fait tellement de scénarios des fois que... On pense qu'avec l'expérience, ça va s'en aller, mais ça s'en va jamais parce que chaque combat est plus gros et plus gros. La seule chose qui change, c'est qu'on apprend à l'accepter et de vivre avec.
Et de le choisir. Mais j'avais envie de te demander des fois, as-tu l'impression que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as accompli, c'était ta destinée en quelque sorte, ou vraiment chaque décision que tu as prise, ces décisions-là t'ont conduit vers ça? Tu sais, même parce que j'ai l'impression que la visualisation, c'est quelque chose de très, très important dans toi, tu sais, de développer des automatismes. À quel âge t'es-tu vu champion? L'as-tu vu bien longtemps avant que ça arrive?
Ah, ça, c'est une bonne question. C'est comme deux questions.
Ouais.
Je suis pas surpris. Ça peut paraître un peu arrogant à dire, mais quand j'étais jeune, j'avais un rêve. Et quand j'ai vu le premier combat de Royce Gracie gagner le tournoi du Ultimate Fighting Championship, j'ai été inspiré. Et j'ai tout de suite su que je voulais faire ça. Et j'y ai cru. Je savais pas si j'allais y arriver, mais je savais que j'avais tous les outils pour pouvoir y arriver.
T'avais quel âge là, quand tu penses à ça?
J'étais adolescent, j'avais peut-être 14-15 ans. Et je savais pas si, comme je vous dis, on a toujours des doutes et j'avais des peurs. Hein. Moi, j'ai toujours eu extrêmement peur parce que je suis quelqu'un de très, très fier. Pour moi, échouer, c'est inacceptable. Mais par contre, d'un autre côté, je suis prêt à échouer. Dans le sens que je sais que si j'échoue, je vais apprendre de mon échec et revenir plus fort par la suite. Souvent, les gens sont paralysés par la peur d'échouer. Faut pas être paralysé par la peur d'échouer. C'est sûr qu'il faut détester échouer. Quand on a un compétiteur, il faut détester échouer. Mais il faut s'en servir de l'échec pour pouvoir grandir et apprendre et devenir meilleur. Et moi, d'un autre côté aussi, je suis quelqu'un qui... Je crois que dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tout est une cause. Je crois à la causalité, cause et effet. Donc, je crois que ça peut paraître drôle à dire, mais le fait que je suis champion, c'est pas de ma faute. C'est juste le résultat de plusieurs choses qui sont pas arrivées dans le passé puis qui ont fait en sorte que je suis devenu qui je suis devenu.
Je passe du stress à la confiance, puis des fois, ça s'en va ensemble. La confiance, comment tu as fait pour te bâtir cette confiance-là qui t'a permis de devenir GSP?
La confiance, ça, c'est une autre chose que les gens comprennent pas. La confiance, c'est pas un état d'esprit. La confiance, c'est un choix. On peut apprendre à devenir plus confiant. Et la façon de faire, je vais vous donner un exemple pour que tout le monde puisse se reconnaître. Si j'ai un examen à l'école et j'ai pas étudié, mais la journée de l'examen, je me présente, c'est sûr que je ne serai pas confiant parce que si je suis intelligent, je sais que j'ai pas fait mes études. Donc, s'il me pose une question, je ne suis pas préparé. Par contre, si j'ai étudié à 100% du mieux que je pouvais, la journée de l'examen, c'est sûr que je vais avoir peur. Je peux avoir des doutes, mais je vais être plus confiant. Donc, la confiance, c'est que tu apprends à former ta confiance. Et aussi, moi, j'utilise une théorie de James Lange. James Lange, lui, il disait que le mental peut dire à ton corps comment réagir, mais aussi ton corps peut dire à ton mental comment se sentir, comment penser dans sa tête. Et moi, je me sers de ça. Donc, quand j'ai une compétition, je me mets un masque et je fais semblant que c'est impossible pour moi d'échouer. Je fais semblant que j'ai hâte de savoir comment je vais réussir à gagner mon combat et que je suis excité. Souvent, le monde, ils me disent « Ah, ils me disent en anglais, est-ce que tu as peur? » Et la réponse que les psychologues sportifs nous disent de dire, c'est « Ah non, j'ai pas peur, je suis excité. I'm not scared, I'm excited. » Et moi, souvent, je disais aux gens, j'ai aux psychologues sportifs qui me disaient ça, ils disaient « Excited ». Je ne suis pas excité. Je suis excité quand je vois une belle femme nue. Je suis excité quand j'ai pas mangé pendant 5 jours et puis je m'en vais manger à mon restaurant préféré. Ça, oui, je suis excité. Je suis excité quand il fait moins 20 à Montréal et je m'en vais dans le sud en vacances. Ça, oui, je suis excité, mais je ne suis pas excité à aller me battre. C'est quoi que ça veut dire, excité? Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais là, maintenant, je l'ai compris. En fait, quand tu dis que tu es excité, en réalité, c'est que tu as peur. Mais t'es excité, c'est que tu caches la vérité, tu mets un masque, tu dis « Ah, je suis excité », tu joues le rôle de comme quoi t'es excité de savoir comment tu vas gagner le combat. Donc c'est de ça que les psychologues sportifs, souvent, ils font allusion. Mais moi, ça m'a pris du temps à le comprendre. Et au début, je comprenais pas, ils me disaient « I'm excited », en anglais, on dit « I'm excited ». Je suis pas excité du tout, je m'en vais me battre dans une cage, ça se peut que je me fasse knocker, ça se peut que je me fasse humilier, j'ai travaillé fort pour ça, ça me tente pas d'aller là, puis que j'ai tout fait ça pour rien. Je suis pas excité du tout. J'ai peur. Et j'ai pas peur d'avouer que j'ai peur.
Par contre, ça, c'est rare dans un sport de combat. Puis je trouve que ça te distingue de tout le monde.
C'est vrai. Mais par contre, quand c'est le jour J, quand c'est le temps de performer, j'ai pas peur d'avouer que j'ai peur. Mais quand c'est le temps de performer, je me mets un masque. Et puis, je fais la marche comme toutes les autres. Et puis, je me mets une armure. Une armure d'invincibilité qui est juste une image, mais qui est là pour me transformer au niveau psychologique, pour me mettre vraiment dans la peau d'un vrai combattant que je dois être.
Georges St-Pierre et GSP sont avec nous aujourd'hui. On revient dans un instant pour la suite de cet entretien fascinant aux amateurs de sport.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois rencontre.
Nous voilà de retour, notre invité, un grand privilège de le recevoir pour une première fois aux amateurs de sport, Georges St-Pierre. Georges, peux-tu nous partager avec nous, on le voit en image, on a des frissons quand on te voit marcher vers l'octogone, quand on t'a vu marcher vers l'octogone pour quelques-uns de tes grands combats. Qu'est-ce que tu vis dans ces secondes-là où tu quittes le vestiaire puis tu arrives à l'endroit sur le plateau où tu vas te battre?
Mais juste pour vous décrire comment ça s'est passé là, dans mon dernier combat, parce que c'est frais dans ma mémoire, je vais même reculer quelques heures avant ça pour vous aider à comprendre la transformation au niveau psychologique. Je suis à l'hôtel, je viens de me réveiller de ma sieste, et là, c'est le temps que je mange, et après que j'ai fini de manger, je m'en vais à l'aréna pour mon combat. Donc, quand j'arrive à table, je viens de manger, je vois tout le monde qui chuchote. Là, je dis « Qu'est-ce qui se passe? » Là, il y a un de mes amis, il me regarde, il disait « Ton partenaire d'entraînement, Ayman Zahabi, s'est fait knocker. » Et là, je suis comme, OK, es-tu correct? Ouais, il est correct, ça n'a pas bien été pour lui. Je dis, OK, je finis de manger. Fait que là, on part, je mets mon suit, je m'en vais dans le vestiaire, et là, ça commence mal, ma soirée commence mal. Tu sais, quand ton partenaire d'entraînement perd un combat, tout se remet en question. Est-ce qu'on n'est pas aussi bon qu'on le pensait, tu sais, parce que lui, il s'entraînait avec moi, peut-être que. Donc, ça te remet en question. Donc là, j'arrive dans mon vestiaire, là, je vois un autre de mes partenaires d'entraînement, Joseph Duffy, il se fait knocker aussi. Je dis, oh my God, là, ça va vraiment pas bien. Et là, j'arrive. Quand j'arrive aussi dans mon vestiaire, je vois un autre gars qui s'appelle Mickey Gall. Lui, il a un sac de glace à la tête. Il a perdu aussi son combat. J'ai dit, merde, j'ai 0 en 3 à soir, ça va pas bien. Là, je commence à me dire dans ma tête, il y a peut-être une malédiction sur mon vestiaire. Tu sais, quand t'es dans une période de stress comme ça avant un combat, tu te mets à penser à toutes sortes de niaiseries. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais vraiment peur et je commençais à me douter. J'ai dit, merde, j'ai fait 4 ans, plus de 4 ans, je me suis pas battu. Je me bats contre le champion de la catégorie de poids plus élevé que moi. J'ai dit, merde, qu'est-ce que je vais faire? Merde, c'est vraiment pas notre soirée. Des fois, on est juste malchanceux. C'est peut-être pas notre soirée. Là, j'ai dit, merde. Je m'en vais dans la toilette, comme à chaque fois que je fais ma marche pour les combats. Je viens de finir de me réchauffer. Je m'en vais dans les toilettes. Et là, je me regarde dans le miroir. Et là, je commence à faire mon rituel que je fais avant chaque combat. Et je commence à me regarder dans le miroir. Et là, je commence à me dire... Ça peut paraître arrogant, mais je suis pas arrogant en public, mais je le suis en privé. Donc, je commence à me regarder dans le miroir. Et là, je commence à me dire des choses qui me font sentir bien. Même si j'y crois pas, je me le dis pour me transformer psychologiquement. Je me regarde dans le miroir. Et là, je me dis, c'est moi le meilleur combattant au monde. Je suis le best of the best, le meilleur. Je suis beaucoup mieux, meilleur que Michael Bisping. Je suis beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant. J'ai plus de savoir. Il n'y a rien qui peut me faire. Dès que je vais le toucher avec une bonne frappe, il va tomber à terre. Il n'y a aucune chance de me battre. J'ai les meilleurs entraîneurs. Je suis mieux préparé que lui. Je suis beaucoup plus athlétique que lui. J'ai un quotient intellectuel de combattant beaucoup plus élevé que lui. Beaucoup plus de. Je suis mieux préparé et tout. Donc là, je claque la porte, je sors des toilettes. Et déjà là, je suis plus la même personne que quand j'ai rentré auparavant, en l'espace de quelques secondes. Et là, le gars du UFC, lui qui travaille pour l'UFC, il rentre dans notre vaisseau, il dit « Saint-Pierre, you up next? Are you ready? » Et là, je tape des mains, j'ai « I am ready, je suis prêt. » Et là, même si j'ai peur, c'est un masque que je me mets. Et là, je marche vers l'octogone. Et là, plus je marche vers l'octogone, plus que je fais des pas, plus que ma confiance s'installe. Et par le temps que je suis rendu du temps que je passe du vestiaire à l'octogone, je suis transformé à 100% au niveau psychologique. Là, c'est. On y va à 100%, on y va pas du tout.
Je peux plus reculer rendu là.
Je peux plus reculer. J'y vais à 100%. Comme on dit je vais avec mon bouclier ou je ressors sur mon bouclier. Un peu le même état d'esprit que les gladiateurs se mettaient à l'époque. C'est la même chose. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Il faut que tu y ailles à 100%. Il faut que tu sois prêt à tout donner. C'est même jusqu'à la mort. C'est comme ça. Dans ce sport-là, c'est le même. Il faut que tu sois à l'extrême. Si t'es pas prêt à faire le sacrifice, ben t'es mieux de trouver une autre chose parce que tu vas pas réussir à faire long feu dans ce sport-là.
Wow! Hey, ce sont des moments d'une rare intensité que tu nous décris là. C'est malade juste de se mettre dans ta tête, d'essayer de le faire, d'essayer d'imaginer ce que tu vivais à ce moment-là bien précis. Puis là, tu nous décris quelque chose qui se passe le soir du combat, mais ce que peu de gens savent, je pense, c'est qu'un mois avant le combat, t'as pensé que t'avais le cancer.
Oui, ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé quelques semaines, à peu près, à environ un mois avant mon combat contre Michael Bisping, j'ai commencé à avoir des crampes, vraiment des crampes très, très douloureuses, puis j'arrivais plus à dormir. Et même quand j'allais aux toilettes, il y avait du sang qui sortait et tout, donc c'est vraiment pas normal. Et pour ce combat-là, je m'avais fait mettre sur une diète pour manger comme environ 5 fois par jour, j'essayais de prendre la masse. Alors, je pense que le fait que je mange beaucoup et que avec le stress, et il y a une partie génétique aussi que le docteur m'a dit, ça m'a créé un problème. Au début, je ne savais pas c'était quoi, donc je suis allé passer des tests. Les tests pour le cancer sont revenus négatifs.
Étais-tu soulagé?
J'étais soulagé, mais par contre, j'avais toujours mal. Je ne savais pas c'était quoi le problème. Et puis, ça m'affectait beaucoup. Alors, on m'a dit, là, pour savoir davantage qu'est-ce qui se passe, il faut que tu fasses une colonoscopie. Une colonoscopie, c'est quand on t'envoie une caméra à l'intérieur, mais ça, il faut que tu fasses, faut que tu prennes des laxatifs et tout ça pour pas que tu manges pendant quelques jours. Et moi, j'essayais de prendre du poids, donc c'était hors de question que je fasse ça avant le combat. Donc, j'ai dit au docteur, j'ai dit, regarde, je vais attendre le combat, je vais faire le combat, puis après, je vais le faire. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait le combat, j'ai gagné. Mais mon problème de la santé, c'était pas réglé parce que j'avais encore mal. Donc, j'allais faire les tests à la colonoscopie, puis j'ai été diagnostiqué avec une colite ulcéreuse. Et là, quand ça s'est arrivé, j'ai fait des recherches. Le docteur m'a dit, ça, c'est une condition que tu es pris à vie avec ça. Il faut que tu embarques sur des médicaments, tout ça. Alors là, je commence à faire des recherches et puis je commence à m'intéresser aux jeûnes intermittents puis les jeûnes prolongés. Alors, je rencontre un docteur qui s'appelle Jason Fung qui accepte de me voir. Et puis, lui, c'est un docteur, c'est un néphrologue qui traite les gens atteints de diabète avec des jeûnes. Et lui, il commence à m'expliquer les bienfaits des jeûnes et tout ça. Et puis là, j'ai changé complètement mon mode de vie on appelle ça du 16-8. Je me donne le droit de consommer toutes mes calories dans un espace de 8 heures par jour. Donc, il y a 16 heures durant ma journée de 24 heures. Il y a 16 heures que je mange absolument rien au niveau calorique. Pas de jus, pas rien, pas de nourriture. Par contre, j'ai le droit de boire de l'eau pendant 16 heures. Mais il y a 8 heures que j'ai le droit de manger. Au début, je pensais que c'était de la folie. Je dis, c'est impossible. Mais là, il m'explique que on n'est pas obligé de manger trois fois par jour comme la plupart du monde font. Et puis, on est conditionné à ce mode de vie-là, mais on n'est pas. Notre corps n'a pas besoin. Même notre corps fonctionne mieux quand il mange moins au niveau de la production hormonale. Et là, j'étais un peu sceptique au début, mais j'ai commencé à le faire. Au début, c'était très difficile. Ça demande beaucoup de discipline, mais après ça, je me suis habitué. Et j'ai commencé aussi à faire des jeûnes prolongés. Trois fois par année, je mange pas pendant cinq jours. Donc, je prends de l'eau et parce que je m'entraîne aussi, je prends du sel d'Himalaya pour les minéraux dans ton corps et dans le cerveau. Donc, ça a changé ma vie. Je me sens beaucoup mieux. J'ai même fait des tests par la suite dans un exoscan à savoir comment mon corps s'est transformé dû à ces jeûnes-là. Et j'ai gagné de la masse musculaire, j'ai gagné de la densité osseuse, j'ai perdu du gras et j'ai perdu énormément de rétention d'eau. Donc, c'est vraiment surprenant, en mangeant moins. Et je me sens très, très bien. Depuis que j'ai commencé à faire ça, je dors mieux et je me sens très, très bien au niveau de la récupération, l'inflammation surtout. J'ai beaucoup moins d'inflammation. Bon, avec tout l'entraînement que je fais, j'avais beaucoup d'inflammation qui était due à la rétention d'eau. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Et les symptômes de colite ulcéreuse que j'avais sont disparus. Alors, wow. Je prends plus mes médicaments non plus, donc c'est un peu miraculeux.
Ouais. C'est extraordinaire. Ben, tant mieux pour toi, parce qu'on veut vieillir en santé. Tu sais, les combattants, on parle tout le temps de la santé mentale, les séquelles peut-être au cerveau, etc. Mais il y a la vie de tous les jours et la digestion et tout ça, ça en fait partie. Puis puisque je viens de l'évoquer, j'avais même pas l'intention de te parler de ça, mais de par la carrière que tu as menée, as-tu des craintes par rapport à des potentielles séquelles en vieillissant, l'état du cerveau, quoi que ce soit, Georges?
J'ai des craintes, c'est certain. Mais parce que avec la technologie qu'on a et les tests qu'on a aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir à 100% qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Par contre, j'ai toujours, même en plus des tests qu'on nous fait faire au UFC, pour la compétition, j'ai fait des tests en extra. J'ai toujours été super... pour moi, la santé, c'est la chose la plus importante. Donc, j'ai fait des tests. Donc, je suis moins inquiète au niveau des dommages au cerveau. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est le stress. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai arrêté de la compétition. C'est que le stress, c'est ça qu'elle allait me chercher. Je suis quelqu'un qui est tellement fier. Pour moi, la compétition, c'est tellement important. Gagner, c'était très important. Et l'échec, c'était inacceptable. Donc, pour moi, je mettais beaucoup de pression sur mes épaules parce que ça m'aidait à compétitionner à mon mieux. Quand j'ai de la pression, c'est là que je performe le mieux et je le savais. Donc, c'est le stress qui allait me chercher. Le fait que j'ai pris ma retraite, maintenant, ça m'a enlevé une tonne de stress et je me sens beaucoup mieux.
Georges, c'est le temps de s'arrêter pour une pause, mais j'ai encore plusieurs questions pour toi. J'aimerais ça te parler de cinéma. C'est quoi se battre au cinéma avec Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme? Bon, t'as fait Capitaine America il y a quelques années. Et aussi, sujet important, je le sais que tu regrettes de ne pas avoir pris ta retraite. Il y a plusieurs années de cela, il n'y a pas grand monde qui le savent. Eh bien, j'aimerais ça que tu nous dises pourquoi dans quelques instants.
Mario Langlois rencontre. au réseau Cogeco.
Nous sommes de retour avec notre invité spécial ce soir aux amateurs de sport, nul autre que Georges Saint-Pierre. Georges, perdre, ça fait mal dans le sport de combat, particulièrement pas juste au sens figuré, là, mais au sens propre. Mais perdre dans la vie, en affaires, dans plein de domaines, ça fait mal, ça laisse des traces. Il faut reconstruire sa confiance. Et tu as déjà dit dans une entrevue que tu accordais aux États-Unis que le jour le plus difficile de ta carrière et peut-être de ta vie, ça avait été ta défaite par knockout contre Sarah.
C'est vrai.
Ce que j'avais envie de te demander par rapport à ça, c'est quand ça arrive, ça, quand on touche le fond, est-ce que c'est long de se reconstruire? Puis au-delà de ta défaite, même si ça a été une victoire officiellement contre Johnny Hendricks, le fait que ça soit décrié et dénoncé le verdict par des hommes comme Dana White, est-ce que ça t'a fait passer par le même genre de processus?
Non, ma victoire contre Matt Serra, j'ai eu deux défaites dans ma carrière. Pardon, j'ai victoire, c'est défaite. J'ai eu deux défaites. La première, ça a été Matt Hughes. Matthews, je l'ai mis sur un piédestal qui était trop haut. Donc, j'ai appris avec ma défaite contre Matthews de jamais surestimer un adversaire. Après, je suis devenu champion du monde, le jeune superstar, et j'allais combattre contre un mec qui s'appelait Matt Serra, qui était, je pense, à 11 contre 1 négligé dans les paris sportifs. Donc, j'étais le favori parce que je venais de battre le meilleur au monde et là, j'affrontais un aspirant que plusieurs personnes pensaient qu'il n'y avait même pas d'affaire là.
Et t'as bien dormi la veille.
J'ai bien dormi la veille pour la première fois et j'ai perdu ce combat-là. Alors, j'ai appris dans cette défaite-là de ne pas sous-estimer mon adversaire. Ça a été deux leçons que qui m'ont très, très bien servi parce que par la suite, j'ai jamais perdu aucun combat. Le combat contre Hendricks, c'est que je me sortirais. La façon que ça s'est passé, ça s'est pas passé que. Ça s'est mal passé. Et la façon que ça a fini, j'ai fait un mauvais choix. J'aurais dû annoncer la retraite parce que je voulais me retirer. J'avais plusieurs problèmes avec l'organisation. Et d'ailleurs, je voulais qu'ils mettent des tests d'antidopage.
Tu veux dire avant le combat?
Avant même le combat. Il y a plusieurs combats, même avant, je parlais de ça. Il y avait des problèmes dans le sport de dopage.
Tu as songé donc à la retraite bien avant Hendricks?
Avant même Hendricks. J'avais plus le plaisir de me battre. Et quand tu es un combattant, au niveau où j'étais, j'ai plusieurs personnes sur mes épaules. Donc, c'est pas juste moi. Donc, je pouvais pas me retirer comme ça parce qu'il y a d'autres mondes aussi qui en vivent. Et alors, j'avais beaucoup de pression. Je me sentais que je pouvais pas lâcher. Mais si c'était à refaire, ça, c'est une chose que j'aurais dû faire. Durant la conférence de presse, quand j'ai dit à Hendricks, parce qu'il avait accepté de faire les tests d'antidopage, et quand c'était rendu le temps de signer pour les faire, il a refusé. Donc, j'aurais dû prendre la ceinture devant tout le monde, puis la laisser là, puis partir. Mais je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est un de mes regrets. J'aurais dû le faire. Et c'était à refaire. J'aurais choqué plusieurs personnes, surtout l'UFC, mais je l'aurais fait.
As-tu d'autres regrets?
J'ai plusieurs regrets. C'est sûr que mes deux défaites, si je pouvais les enlever de ma fiche, je l'aurais fait. Mais il y a des choses dans la vie qu'on peut apprendre qu'on ne peut pas. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas apprendre, on doit le vivre. Et je pense que ces deux défaites-là, c'est un bon exemple de ça.
Y avait-tu un bras de fer psychologique avec Dana White? Je sais que tu le respectes comme promoteur. Là. Je sais que tu l'as déjà dit, c'était probablement le meilleur au monde.
C'est le meilleur promoteur au monde. Il est incroyable. Il peut vendre de la glace à un Esquimau. Il est incroyable.
Qu'est-ce que tu faisais quand tu voyais son nom apparaître sur ton téléphone? T'aimais pas ça nécessairement de négocier directement avec ou...
Avec le UFC, pour moi, ça a toujours été business. Ils m'ont pas fait de faveur, je les ai pas fait de faveur. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs combattants qui ont fait des faveurs à l'UFC et ils s'attendaient en retour d'avoir des faveurs. La carrière d'un athlète, c'est trop court pour qu'on puisse faire des compromis comme ça. On doit faire ce qui est le bon pour nous à tout prix. Parce qu'on a une carrière d'un athlète, c'est maximum 10 ans. La plupart même, c'est beaucoup plus court que ça. Je parle 10 ans si t'es champion. Moi, j'ai été chanceux, j'ai eu 15 ans. Plus que 15 ans même. J'ai commencé à 19 ans, j'ai fini. Maintenant, j'ai 37, 36 ans. J'ai été chanceux et puis j'en suis très, très content. Mais il faut faire le mieux pour nos intérêts à nous. Et le UFC, c'est une business. Ils vont faire ce qui est le mieux pour leur intérêt.
Pas facile de se tenir debout, là. T'es pas une équipe. T'es pas une équipe d'hockey, là. T'es un homme, un individu.
Un homme. Mais avec le statut que j'ai en ce moment, je peux le faire. C'est sûr que j'ai pas toujours été dans cette position-là. Et maintenant, je l'ai fait du mieux que je peux. Maintenant, la guerre est finie entre moi et Dana White. On est redevenus amis. On s'est dit les vraies choses avant que je prenne ma retraite. Je l'ai appelé. Et puis, on a fini en bon terme. On a toujours été en bon terme. C'est juste le côté business qui faisait en sorte qu'on avait des atomes crochus entre nous.
Ouais. Gardes-tu un lien avec le sport, avec ton équipe d'entraîneurs qui, j'imagine, entraîne d'autres combattants? Est-ce que tu vas mettre ton nez
toujours
dans le gymnase? Oui.
Toujours. Je reste toujours actif dans le gym. Les jeunes souvent viennent me poser des questions, même je les aide à l'entraînement. Quand je m'entraîne, ça me met en confiance parce que je me sens bon. J'ai pas arrêté de compétitionner par rapport à ce que le sport m'a mis dehors. C'est moi qui ai décidé volontairement de sortir. Alors, quand je m'entraîne, j'ai le goût de retourner compétitionner. Je me sens fort parce que je me sens encore le meilleur au monde. Par contre, quand j'arrive chez moi ou quand je me lève le matin, là, je me dis... Oh, ça me tente pas de retourner là-dedans. C'est comme... Non, tu sais. Fait que c'est ce qui a changé à ce niveau-là, tu sais.
On est tout près de la conclusion de l'entrevue, Georges. On te voit maintenant de plus en plus dans des films. On t'a vu dans un film avec Van Damme. On t'a vu... Ça remonte à il y a quelques années. C'est Capitaine America, on t'avait vu.
Ouais.
Je t'ai vu récemment également dans un film avec Seagal. Steven Seagal. Tu me disais que c'était pas un grand film, mais peu importe. Reste que ce sont des expériences avec le cinéma. Et toi, là, aimes-tu ça, le cinéma, Georges? Te vois-tu?
J'adore ça.
Et jouer dans un film, as-tu adoré ça, tes expériences?
J'ai aimé ça. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser des rêves, c'était de pouvoir avoir un combat avec Jean-Claude Van Damme au grand écran dans Kickboxer et aussi Steven Seagal. Malheureusement, je joue toujours le vilain, donc c'est toujours moi qui perds à la fin. Même dans Winter Soldier, le Captain America, je me fais battre par Captain America, mais c'est le fun. Pour moi, c'est un jeu, c'est des super-héros et puis c'est comme retomber en enfance. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça.
T'haïs pas ça, les méchants, toi, dans la vie, Georges?
Oui, j'aime mieux jouer le rôle du méchant. Et même mes combattants préférés, ceux que j'aime le plus regarder, c'est un peu des vilains. C'est des gens qui disent un peu tout ce qu'ils pensent et puis qui...
Comme McGregor qui annonce sa retraite, là?
Absolument.
As-tu une pensée pour lui?
Ben, Conor McGregor, je pense que c'était le meilleur au monde. Le meilleur au monde de tous les temps, de tous les combattants pour créer de l'engouement pour un combat. C'est un peu comme le Mohamed Ali des temps modernes. Pour ce qui est de promouvoir un combat, il est vraiment exceptionnel. Même s'il a perdu contre Khabib, je pense qu'il y a plusieurs combattants qui pourraient le battre. Par contre, pour promouvoir un combat, c'est le meilleur. Et ça va me manquer de le voir compétitionner. Je lui souhaite la meilleure des chances. Il a fait la bonne décision, je crois.
En terminant, toi qui as toujours eu un ou deux coups d'avance sur ce qui allait se passer dans ta vision des choses... Je me permets de te demander, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, dans peut-être même plus loin, dans 15-20 ans? C'est quoi ta vision de ton avenir?
Je me vois en santé. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi. Heureux aussi. Et c'est dur à dire, je vais au jour le jour. J'avais un but au niveau professionnel que j'ai atteint. J'avais trois objectifs. C'était de devenir le meilleur, d'être champion, j'ai réussi. De changer les choses dans mon sport au niveau du dopage, j'ai fait de mon mieux pour les changer. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que c'était. Et aussi, je voulais me retirer au top. Alors, je suis content, j'ai réussi à faire ces trois choses-là.
Ben, bravo,
pour le reste, il va falloir que je m'assoie et que je pense à mes buts à long terme. On va voir.
Georges, merci beaucoup. Merci beaucoup de cet entretien. C'est vraiment très, très apprécié.
Merci beaucoup.
Nous recevions donc avec grand plaisir nul autre que Georges St-Pierre ce soir aux amateurs de sport. J'espère que ça vous a plu. On s'arrête pour quelques messages publicitaires. Ensuite de quoi, Jérémy Filosa se joint à nous. On va parler de boxe et de l'impact de Montréal également. À tout de suite, en vous rappelant qu'Alex Harvey sera là à son tour à 20h04 avec nous.